Père, nous savons que le ciel entier nous contemple. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous aurons un jour à rendre compte. Donne-nous d'être saisis dès ces premiers instants par la grandeur de ta sainteté, de ta vérité, et aussi de ta puissance. Donne-nous d'éprouver au plus profond de nos cœurs l'amour de ton cœur pour chacune de nos âmes. Tu nous vois tous ici. C'est de toi que nous avons reçu la vie, quelle que soit la manière dont nous sommes nés. Si nous existons, c'est parce que tu as voulu notre existence. Et nous voulons te demander que tu rendes cette existence belle, sainte, irréprochable, qu'elle réponde au dessein éternel de ton cœur. Que nous ne perdions pas notre temps, aucune journée, aucune semaine, aucun mois, aucune année, s'il nous reste encore cela à vivre. Mais que chaque jour de nos vies puisse être vécu réellement pour toi, Seigneur, qui nous a donné la vie. C'est notre prière ce soir, que ton esprit agisse au milieu de nous avec sa puissance, sa douceur, sa conviction. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, en cette soirée du 15 juillet, nous continuons notre thème, les enseignements du Dieu vivant. Et plus particulièrement, ce soir encore, comment découvrir et contempler le visage de Jésus dans les Proverbes. Nous aurons donc à lire le chapitre 5. Avant d'en faire la lecture, je voudrais simplement rappeler que ce matin, en étudiant le chapitre 4 à la clairière des Indiens, nous n'avons pas pu appliquer toutes les règles que je vous ai proposées. Le temps nous manquait. Mais j'espère qu'en d'autres moments, vous rechercherez quelques exemples d'hommes et de femmes de la Bible qui pourrait éclairer encore et confirmer les vérités que nous avons entrevues. Par exemple, vous pourriez méditer en recherchant des exemples sur les versets où nous avons trouvé le titre que Jésus se donnait, « Je suis la lumière du monde ». Quelques exemples confirment ce verset, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au plein midi. À qui pouvez-vous penser quand vous vous arrêtez sur ce verset, que il y a des gens qui ont fait un voyage et qui ont vu la lumière croître devant eux? Des gens venus de l'Orient, les mages, hein? Les mages sont là aussi pour nous illustrer la réalité, l'authenticité de ce texte, n'est-ce pas? Plus ils ont avancé, plus il y a eu de lumière. Ils n'ont pas été déçus, ils n'ont pas tâtonné. Ils sont arrivés et leur cœur a été dans la joie. Je pense maintenant à un homme, Nathanaël, par exemple. Relisez son histoire dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Il a entendu parler de Jésus par un certain Philippe et il a été amené à Jésus. Et il avait dit à Philippe, au fond, tu me dis que vous avez trouvé le Messie, Jésus de Nazareth, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Il avait un doute dans son cœur. mais c'était un homme droit, et il est allé, viens et vois, et quand Jésus l'a vu arriver, il a dit, voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude, hein, on retrouve les proverbes là, il n'y a pas de fraude. Il fait une objection, mais Jésus n'a pas été contre cette objection. Il voit un homme sérieux. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? On sait comment étaient les gens de Nazareth, puisqu'ils ont voulu jeter en bas de la montagne, où leur ville était bâtie, ils ont voulu jeter même leur concitoyen, Jésus. Donc, Nazareth n'avait pas une très bonne réputation. Alors, on comprend que cet homme de Cana, ce Nathanaël, se soit demandé ce qui pouvait venir de bon de Nazareth. Et quand il voit Jésus, qui lui dit, tu es un Israélite en qui il n'y a point de faute, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, Nathanaël s'est bien rendu compte, oui, j'étais sous un figuier, et j'étais peut-être en train de méditer à telle chose, mais donc je suis devant le Messie. Alors il a cru, et la lumière est entrée dans son cœur, toujours plus de lumière, et Jésus lui en promet encore davantage. Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu as cru, mais tu vas voir des choses plus merveilleuses encore. Le ciel ouvert et les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Vous voyez, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant. Si vous avez eu un peu de lumière aujourd'hui, croyez que vous en aurez davantage demain. Alors, nous marchons pas à pas vers plus de lumière. Maintenant, est-ce que vous pourriez encore vous souvenir d'hommes qui ont fait cette expérience que dans leur voyage, il y a eu toujours plus de lumière? Oui, mais je pense en particulier à un Éthiopien, parce que Saul de Tarse, au fond, c'est vrai, il a eu cette lumière, mais il ne la cherchait pas à ce moment-là. Ça lui est tombé dessus. Mais je pense à un homme qui était parti d'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem et qui s'en retournait plutôt triste, l'eunuque d'Éthiopie. Hein. Eh bien, son cœur cherchait, il avait fait un voyage, il avait cherché la sagesse. Et il s'en retournait sans avoir trouvé le vrai Salomon, mais il avait le livre. Et même s'il ne le comprenait pas, eh bien parce que Dieu, du haut du ciel, le voyait qu'il était sincère, Dieu déplace un de ses serviteurs, justement Philippe, et il l'envoie sur ce chemin désert de Jérusalem à Gaza, et voilà notre eunuque qui lisait à haute voix, et je vous conseille aussi de faire des lectures à haute voix, parce que non seulement ça entre par vos yeux, mais ça entre par vos oreilles. Et vous comprenez beaucoup mieux. Il lisait à haute voix le prophète Ésaïe, et Philippe s'approche de l'eunuque et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un me l'explique? Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire dans ces soirées, de vous expliquer la parole dans la faiblesse qui me caractérise, mais dans la dépendance du Saint-Esprit qui seul peut illuminer ces textes. Et l'eunuque a eu la lumière. Et il a pu continuer son voyage tout joyeux. Tout joyeux. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant. Ne pensez pas à vos déceptions. Mais pensez qu'en avançant, vous aurez plus de lumière. Le Seigneur vous voit. Et je pense à un autre homme qu'on trouve dans le livre des Actes, un homme pieux, un païen, mais qui était pieux et qui avait un bon témoignage dans sa maison. Il avait bien élevé ses enfants, parce qu'un païen peut bien élever ses enfants. Et il avait de bons rapports avec ses serviteurs. C'était qui? Corneille, hein? Et Corneille cherchait la lumière, et Dieu la lui a envoyée, par qui? Par l'apôtre Pierre. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Quand il y a ce besoin, quand il y a ce désir, cette recherche, cette supplication, eh bien, Dieu répond. Mais il faut de la droiture, il faut un cœur sans fraude, et il faut vraiment vouloir cette lumière. Voilà, je dis ceci simplement pour vous illustrer comment un verset peut être éclairé par ces exemples. Et on pourrait faire cela avec tous les versets. Alors ça, c'est votre travail, hein. Ce soir, donc, nous en sommes arrivés au chapitre 5, et maintenant, je vais vous le lire. Ce chapitre qui traite et qui développe, au fond, une partie du chapitre 2 que nous avons déjà vu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas peur de se répéter. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme un glaive à deux tranchants, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à l'homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois des eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais la joie de la femme de ton prochain. Version revue et corrigée. Ah, je vois que vous suivez. C'est la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de gras. Sois en tout temps élivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle trouve une nouvelle fois le chemin de nos cœurs et atteigne aussi nos consciences d'une façon complète et définitive, que pour nous, certaines choses soient absolument jugées. On ne reviendra plus sur ces questions-là, parce qu'on a des convictions. Seigneur, donne la grâce pour parler, donne la grâce pour recevoir. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Mes bien-aimés, le sujet que traite ce chapitre est donc, comme je le disais tout à l'heure, un développement d'une partie du chapitre 2 au sujet de la femme étrangère. On a lu déjà quelque chose au verset 16 et suivant du chapitre 2e. C'est la deuxième fois maintenant que nous retrouvons la femme étrangère. On la retrouvera encore. Donc, comme le fera plus tard l'apôtre Paul, nous voyons que la sagesse ne se lasse pas de nous redire les mêmes choses. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Vous redire les mêmes choses ne m'est pas pénible, c'est votre sûreté. Vous avez besoin qu'on vous rappelle des choses que je vous ai déjà dites. » Et ça, c'est la méthode de la sagesse, c'est ce que vous retrouverez dans les proverbes. Et alors, ce chapitre, vous l'avez remarqué, j'ai fait quelques petits arrêts, ce chapitre se divise nettement en trois parties. Du premier verset au verset 14e, nous avons une exhortation à fuir l'impureté. Puis, du verset 15 au verset 19, nous avons un éloge du mariage, de l'amour conjugal. Et enfin, du verset 20 au verset 22, nous trouvons un sérieux avertissement adressé au nom de Dieu, de ce Dieu qui sait tout, de ce Dieu qui voit tout. Donc, dans les versets 1 à 14, il est question de la pureté que nous devons avoir dans nos vies. Dans les versets précédents, il était plutôt question de la droiture qui doit caractériser un enfant de la sagesse. Mais un enfant qui se réclame de la sagesse, c'est-à-dire qui se réclame du Seigneur, ne doit pas seulement vivre dans la droiture et dans la vérité, mais il doit vivre aussi dans la pureté, c'est-à-dire avoir une vie sans mélange, une vie entièrement donnée à son Seigneur et à son bien-aimé Sauveur. Alors, au verset 1 et 2, vous avez une solennelle préface qui introduit l'enseignement que la sagesse va nous donner sur la malheureuse condition de cette femme étrangère, qui est l'image de l'être qui n'est pas en relation avec Dieu, qui, comme nous le trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, est étranger à la vie de Dieu. Elle vit comme si Dieu n'existait pas, comme si nous n'aurions pas à rendre compte un jour à notre Créateur de ce que nous aurons fait de ce corps qu'il nous a donné. Parce qu'il n'est pas question que nous n'ayons qu'un esprit et qu'une âme, nous avons aussi un corps, et c'est l'être tout entier qui appartient au Seigneur. Je ne puis pas donner simplement mon âme au Seigneur et garder mon corps. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que Oui, on peut donner son âme au Seigneur, mais notre corps, nous le conservons, et avec ce corps, eh bien, nous chercherons à retirer toutes les jouissances que nous pouvons trouver dans ce monde. Donc, nous gardons nos membres pour nous-mêmes, pour jouir de tout ce que le monde peut ou voudrait nous donner. Nous voulons donc être de ceux qui ne sont pas étrangers à la vie de Dieu, mais qui admettent non seulement l'existence de Dieu, mais qui vivent et qui sont conscients de vivre sous son regard, qui ont la crainte du Seigneur. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais ce désir de ne pas lui déplaire en aucune manière, en aucune façon, car nous savons que nous avons un Dieu qui a des yeux qui voit, et que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, et qu'il ne peut pas supporter la méchanceté. Nous devons être conscients de cela. Car, voyez-vous, nous sommes des êtres faits de chair, et nous savons que les convoitises de la chair, que le monde excite constamment, eh bien, ces convoitises font, nous dit l'apôtre Pierre, la guerre à quoi ? À notre âme. Les convoitises de la chair font la guerre à notre âme. Ces convoitises souillent notre âme et la détruisent. Et voyez-vous, l'apôtre Paul souligne bien dans le chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens, au verset 1er, que nous devons être purs de corps et d'esprit, pas seulement d'esprit, mais aussi de corps. Ainsi donc, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Notre corps est au Seigneur et nous avons parlé de livrer nos corps dans ce cantique. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. Alors nous voulons être attentifs à la sagesse. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Qui est-ce qui parle ? Le Seigneur lui-même, qui est la sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Parce que si c'était un homme qui parle simplement, nous pourrions dire, bien, pour qui se prend-il ? Sa sagesse, son intelligence. Mais si c'est le Seigneur, il est la sagesse, il est l'intelligence. Et alors, si je suis attentif à ce qu'il dit, eh bien, je conserverai la réflexion. Avant de faire quelque chose, je réfléchirai. Et mes lèvres garderont la connaissance. Est-ce que il y a quelque chose qui vous frappe ici? Pourquoi les lèvres? Il semble qu'on aurait dû mettre notre cœur. Hein? Notre cœur gardera la connaissance. Mais pourquoi les lèvres? Comment est-ce que les lèvres gardent la connaissance? Les lèvres deviennent l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Et alors, il est dit, et je crois que vous l'avez cité ce matin, ce verset, de ce que le cœur est rempli, la bouche parle. C'est pourquoi les Juifs, on ne fait pour ainsi dire pas de lecture silencieuse. On voit toujours les lèvres qui remuent. On murmure, ils parlent, ils font une lecture, mais ils la font à mi-voix, pas toujours à haute voix, mais enfin, ils entendent ce qu'ils lisent. Alors, sur les lèvres se trouvent les paroles de la connaissance. Ce qui est dans leur cœur se trouve aussi sur leurs lèvres. Et ça, c'est toujours. Hein? De ce que votre cœur est rempli, la bouche parle. Et voyez-vous, si notre cœur était davantage rempli du Seigneur, il y aurait davantage de louanges sur nos lèvres. Nos lèvres seraient remplies de louanges. Et quand le monde voit des chrétiens qui savent réellement louer le Seigneur, pas s'exciter dans la louange, mais louer le Seigneur comme un fleuve immense et la paix de Dieu. Cette louange qui coule comme un fleuve, bien le monde là aussi est impressionné. Et alors, à ses lèvres d'un fils, ses lèvres qui conservent la connaissance, sont opposées quelles lèvres? Les lèvres de l'étrangère. Hein? À ses lèvres du croyant sont opposées les lèvres de l'étrangère. Alors, qui est cette femme étrangère dont nous devons nous garder? Et voyez-vous, là, le Saint-Esprit s'adresse à des jeunes et des personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Et c'est triste à dire. Le Saint-Esprit nous met en garde contre qui? Contre une femme qui est mariée. L'étrangère, ici, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée qui cherche à attirer le jeune homme faible et sans expérience. Mes bien-aimés, je pourrais vous raconter des faits qui datent de bien longtemps, j'avais 15 ans, quand ces femmes, je les ai rencontrées sur ma route aussi. Quand vous êtes malade, quand vous êtes dans une clinique, on voit toutes sortes de choses et on a toutes sortes d'âmes très charitables qui voudraient nous enseigner toutes sortes de choses, parce que à 15 ans on devrait déjà connaître un peu la vie, et si on est puceau à 15 ans, ben on est arriéré. Alors on vous offre tout ce qu'il faut, et spécialement des femmes mariées. Vous savez, le monde n'a pas changé. J'y connais aussi ces choses-là. Alors, il faut avoir des convictions. Est-ce que vous en avez à 15 ans, des convictions? Est-ce que vous savez pourquoi vous dites non? Pourquoi vous refusez? Et puis, est-ce que vous dites la raison de votre refus? La femme étrangère, la femme mariée. Et examinez un petit peu de plus près. Ses lèvres, elles distillent le miel. Qu'est-ce que c'est, le miel? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ben, c'est des proverbes, il faut trouver le secret. Qu'est-ce que c'est, le miel? C'est doux, n'est-ce pas? Il y a des femmes mariées qui sont très douces pour les autres. Peut-être pas très douces pour leur mari, mais pour celui qu'elles voudraient prendre dans ses filets, elle peut être très douce. Les lèvres de l'étrangère sont très douces. Et ici, il est mis son palais, mais littéralement, Segond a traduit palais, mais littéralement, c'est gosier. Hein? Le gosier de la femme étrangère. Ses lèvres, nous savons ce que c'est, distille le miel, c'est cette douceur. Puis, son gosier est plus doux que l'huile. Qu'est-ce que c'est que le gosier? C'est l'organe de la voix. Hein? Alors, c'est ce qui émet des sons, le gosier. Il est dit que les statues, elles ont un gosier, mais ne parlent pas. Hein? Tandis que si vous avez votre gosier, vous avez vos cordes vocales et vous parlez. Et il y a justement chez la femme étrangère une manière de vous parler, de vous présenter les choses qui sont suaves. C'est très doux, c'est onctueux, c'est huileux, n'est-ce pas? C'est, oui, l'huile, c'est comme une onction même. Il y a ces femmes étrangères qui sont très onctueuses. Puis elles vous diront, mais moi aussi je suis spirituelle. J'étais aumônier pendant 6 ans à Lézun. J'ai raconté déjà une fois au camp. Il y avait un officier suisse que j'aimais beaucoup. C'était un noble. Il avait 6 enfants. Il avait le portrait de sa femme et de ses 6 enfants. Il était là pour plusieurs mois à Lézun. Et il y avait une femme étrangère. Hein, une belle, je ne veux pas dire sa nationalité, ben disons qu'elle était américaine, oui, c'était vrai. Et elle était là à Lézun, dans cette station climatique, et puis elle aussi, elle s'ennuyait peut-être, hein, elle était mariée, puis alors elle a vu ce bel homme qui était dans son lit, Puis elle lui a fait les propositions. Puis lui, il lui a dit, mais madame, je suis marié. Dit, mais ça fait rien. Alors, mais ça fait rien, c'est un besoin physique. Bon, mais vous n'avez pas de besoin. Bien sûr qu'il en avait lui aussi, il n'était pas de bois. Il n'avait pas sa femme. Bon, alors, ne pouvant pas s'en sortir en disant qu'il était marié, en lui montrant la photographie, il dit, mais je suis chrétien. N'est-ce pas? Il dit, mais moi aussi, elle sort son crucifix, elle sort son chapelet de sa poche, de la robe de chambre. Mais moi aussi, je suis chrétienne. Ça n'empêche rien, n'est-ce pas? Ça n'empêche rien. Alors, il me téléphonait pour que je vienne l'aider. L'étrangère, vous voyez, elle se rend pas compte, mais on est chrétien, mais tout le monde est chrétien, mais tout le monde le sait. Marie-Lise, notre fille, que vous avez connue quelques-uns parmi vous qui étaient longtemps en Israël, eh bien, elle était dans ses kibbutz, et il y a de ces étrangers aussi qui venaient, et qui étaient des gens très chrétiens aussi, et puis qui lui faisaient toutes sortes de propositions, puis elle résistait, elle ne voulait pas. Et puis, alors on lui demandait la raison. Puis quand elle essayait d'expliquer, elle disait, mais ton âme et mon âme, ça reste tout à fait en dehors. C'est seulement que de la chair, c'est ça, c'est ça. Et puis, il palpait ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est de la chair. Est-ce que ce que je disais quelquefois, c'est du veau, c'est du cochon, c'est du bœuf, une fois. On change, n'est-ce pas? Et des fois, c'est du poulet ou de la dinde. Voilà, mais ça ne touche pas notre âme. C'est seulement notre corps, hein. Or, ce qui touche le corps touche l'âme et touche aussi l'esprit. Vous ne pouvez pas séparer. Vous pouvez distinguer, mais jamais séparer. Alors, vous voyez, il y a toute espèce de raisonnement. Et pour finir, vous, comme vous avez quand même aussi des désirs, et puis notre cœur, on sait bien ce qu'il est. Alors, on se dit, mais peut-être qu'ils ont raison. Au fond, on nous a élevés de cette façon-là. C'est des puritains qui nous ont élevés, nos parents, etc. Et alors, on n'a pas de conviction, puis on s'abandonne. Puis on s'abandonne. Parce qu'on n'a pas réfléchi assez, puis on n'était pas convaincu. On hésitait. Mais voyez-vous, on évite d'être trompé. Ça pouvait avoir le goût de miel, hein, ça pouvait vous paraître très doux, cette affaire. Puis ça finit vite en... L'absinthe, qu'est-ce que c'est l'absinthe? C'est un poison, hein? C'est un poison, enfin, c'est une plante aromatique qui contient une essence qui est très amère, hein, et même toxique. Et qui croît dans quel lieu? Dans les lieux incultes. Dans les lieux incultes. Et dans nos pays, on cultive quelquefois, on récolte l'absinthe et on en fait une liqueur alcoolique, aromatisée avec cette plante. Et dans mon canton, en Suisse, où je suis né, eh bien, l'absinthe, vous savez comment on l'appelle? C'est interdit, soi-disant, de fabriquer de l'absinthe, là. On l'appelle la fée verte. La fée verte est la couleur verte, hein, et puis vous en prenez, hein, ça vous paraît assez bon, et puis après, ben, vous partez pour la gloire, hein. Vous savez plus bien ce que vous faites. La liqueur d'absinthe, tout à coup, ça devient amer. Et l'absinthe, dans la parole, il en est parlé plusieurs fois, c'est toujours le symbole d'un poison. Dans la parole de Dieu, ça représente toujours une chose mauvaise. Vous en avez des preuves dans les textes du prophète Jérémie. Alors, vous voyez, vous passez très rapidement de la douceur à l'amertume. Et puis, vous ne pouvez plus rien changer. Et il est dit que son glaive est aussi un glaive à deux tranchants. Ça vous fait penser à quoi, un glaive à deux tranchants? La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle s'accomplira. Et il y a un jugement qui viendra sur ceux qui méprisent les commandements du Seigneur. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et vous savez, quand on confesse des âmes qui ont été un peu dans cet état, on entend souvent, mais vous savez, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais. Hein. On ne sait plus où on en est. Parce qu'on a tout fait et on ne sait plus où on en est. Comme il est dit de la veuve joyeuse, là dans le chapitre 5 de la première épître à Timothée. Alors verset 7, passons plus loin. Et maintenant, puisque vous êtes avertis, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Vous voyez, il revient toujours à cela. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Parce que si tu vas sur ce chemin qui conduit chez elle, qu'est-ce qui arrivera? Tu dis, oh, mais j'irai seulement jusqu'à la porte, ça m'intéresse quand même de voir si, comme ça. Mais je m'arrêterai, c'est pas vrai. Vous faites cette prière, ne nous induis pas en tentation. Puis on est en train d'y courir, puis on dit, oh mais je m'en vais stopper. Non. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et n'approche pas de la porte de sa maison. De peur. Alors, vous voyez combien il y a de peur ici, dans ce chapitre. Il y en a trois, hein. Verset 9. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres et les années, tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consument. Il y a donc trois de peur. Si tu vas là, si tu n'écoutes pas, eh bien, on ne peut pas te garantir qu'il ne t'arrivera pas tous les malheurs. Alors, ta vigueur, qu'est-ce que c'est que la vigueur? Un homme qui a de la vigueur, c'est un homme qui est en santé, qui est en bonne forme, et puis il suit ce chemin, et on voit très bien que l'éclat de sa santé, qu'on peut appeler son teint, eh bien, change. Le teint qui est, en quelque sorte, justement, le signe d'une bonne santé, l'ornement du jeune homme, ben, ça s'appelle le teint, eh bien, voilà qu'il change. Il n'a plus le même teint. Il donne sa vigueur à d'autres. Parce que si vous commencez avec une, vous continuerez avec d'autres. Et vous donnerez votre vigueur à d'autres. Une ne vous suffira pas. Il vous en faudra d'autres. Il faudra non seulement du veau, mais il faudra du bœuf, il faudra du cochon. Et vous aurez toutes ces viandes-là, puisque vous considérez les corps comme de la viande. Bien, c'est quelque chose qui devrait vous donner la nausée. Et j'espère que la parole aura cet effet, que vous serez écœurés de penser qu'on peut se livrer à ces choses-là. Et qu'on peut, au fond, considérer une femme comme de la viande. C'est dégoûtant. Et nous devrions avoir ça en abomination. Et si nous n'avons pas ça en abomination, nous sommes nous-mêmes des abominables. Croyez-le, c'est vrai cela. Alors on dit, mais moi je suis faible, je suis un homme faible, je suis toujours tenté. Mais réagissez, saisissez ce que c'est. Vous n'allez pas vous conduire pire que les bêtes, parce que les bêtes, elles sont fidèles entre elles. Et nous maintenant, tout est permis et nous allons voir ce qui arrive. Alors, tu donnes ta vigueur à d'autres. Hein. Tu vas commencer par perdre aussi ta santé. Parce que on donne ça, on commence avec une femme mariée, elle nous a initiés, puis ça nous redemande, mais comme le mari est revenu, on ne peut plus l'avoir, alors on cherche où? Ailleurs. Et on donne sa vigueur à d'autres. On commence à aller chez les prostituées, quitte à payer. Parce que la femme mariée ne nous faisait pas payer Mais maintenant, les prostituées, bien, il faut les payer, et ce sont des femmes impudiques. Et non seulement on va y perdre notre santé, mais qu'est-ce qu'on va perdre aussi peut-être? Notre vie, tes années qui t'étaient données pour le Seigneur, tes années qui pouvaient produire du fruit, regardez, tes années qui auraient pu être employées pour les lépreux en Afrique, en Inde ou ailleurs, tes années, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que vous n'avez pas horreur de vous-même, de se dire, ben voilà, voilà ce que nous faisons avec notre corps, alors que nous avons vu ces lépreux qui n'ont pas fait cela et qui ont leurs membres détruits. Et moi, j'emploie encore mes mains pour des choses qui sont infâmes. Il faut que la parole de Dieu nous parle d'une façon profonde. Tes années, eh bien, tu vas peut-être les perdre. Non seulement tu vas y perdre la santé, mais peut-être que tu y perdras la vie. Puis qu'est-ce qu'on perd encore? Tes années à l'homme cruel. Qui c'est l'homme cruel? Ben c'est peut-être le mari qui est revenu de voyage alors que tu as pris la place dans son lit. Et vous savez, l'homme qui se sait trompé, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut décharger son pistolet deux fois. Tu peux y perdre la vie en allant avec la femme de ton prochain. Ou alors, si lui sait que tu as quelques biens, tu le supplies à genoux. Vous voyez cet homme à moitié en chemise, hein, qui est à genoux devant le mari légitime. Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas quoi? Et pas fou l'homme qui trouve sa femme là avec un autre. Je ne voulais pas, je vous en supplie. Mais vous voyez, moi je suis peut-être marié aussi. J'ai mon honneur. Alors le type, il dit, ben, je pourrais faire une affaire avec lui. Alors, pour que je me taise, je te demande tant d'argent. Et on le tient. Il y a un tas de gens qui vivent dans la crainte et on fait du chantage. L'homme se dit, ben, je peux gagner de l'argent avec cet homme. Je le menace quand j'ai besoin d'argent. Je m'en vais lui dire, hein, tu ne veux pas me donner ça? Eh bien, je dis ce que tu as fait avec ma femme. Et c'est comme ça que vous perdez votre fortune, que vous ruinez votre famille. Je connais des hommes qui ont fait ça. J'ai vu des drames dans des familles, des enfants qui avaient faim parce que le père n'amenait plus son argent à la maison. Pour quelle raison? Parce qu'il devait le donner à l'homme cruel qui se vengeait ainsi d'avoir été trompé. C'est cela que vous disent les proverbes. Ça vous met en garde contre cela. Et puis, voilà, on doit travailler, verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Parce qu'on te tient. Et puis, le bien que tu pourrais donner à ta maison, tu dois le donner à l'étranger. Du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Tu aurais des réparations à faire dans ta maison. Ta femme te le demande, mais tu ne peux pas. Tu dis que le patron ne t'a pas augmenté. Ce sont tous des mensonges. Mais simplement, tu dois donner pour cacher la chose. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, parce qu'elle arrive la faim aussi. Et alors, quelle est la faim d'un homme qui s'est laissé aller comme cela? D'abord dans la jeunesse, puis dans l'âge mûr. Eh bien, la fin d'un tel homme, c'est quelque chose souvent d'effrayant. Les folies de la jeunesse, chers amis, les désordres de l'âge mûr, quand on parle du démon du midi, qu'est-ce que ça veut dire? Les folies de l'âge mûr et la mort triste et sans gloire de la vieillesse. Donc, vous pouvez, si vous voulez suivre ce chemin, vous y perdrez ça sera la ruine de votre fortune, la ruine de vos forces, de votre santé, de votre honneur, et puis la perte de votre âme. La perte de votre âme. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, ou vous pensez que vous n'avez rien à prendre de cela. Souvenez-vous de ce chapitre 5 des Proverbes. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, non pas par la lèpre, mais par une autre lèpre, oui. Et que tu ne dises, mais comment donc éjaillit la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? C'est quoi ça? C'est des regrets, des remords. Mais c'est stérile, le remords. Le remords, ça ne change rien. Voyez-vous, les jouissances du péché, elles sont finalement amères. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette pensée de Tolstoï, l'écrivain, qui dit « Le péché laisse un arrière-goût de cendre. » Le péché laisse un arrière-goût de cendre. Et alors, vous voyez ce qu'il est dit ici. « Comment n'ai-je pas prêté l'oreille à ceux qui m'instruisaient ?» Et verset 14, vous trouvez 18 fois dans l'Écriture ce mot « peu s'en est fallu ». Et ici, il y en a un. Peu s'en est fallu, peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Parce que là, il vous est dit, ce qui peut vous arriver si vous suivez ce chemin, eh bien, il peut vous arriver tous les malheurs. Mais voilà, pour cet homme, eh bien, il y a encore un espoir. Mais peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Au milieu du peuple et de l'assemblée. Tout le monde risque de connaître, de savoir cela. Et voilà, mais il y a encore une possibilité de salut. Et cette possibilité, elle est dans un retour au Seigneur et à ce qu'il a voulu pour l'homme et pour la femme. Parce qu'il a voulu que l'homme et la femme soient heureux. Nous avons une vie sexuelle, c'est vrai, et le Seigneur y a pensé lui aussi, et c'est lui qui a établi le mariage. Et c'est ce que vous avez dans la seconde partie que vous pouvez méditer à partir du verset 15, où vous avez jusqu'au verset 19 l'éloge du mariage ou l'amour conjugal. Et comparé ces versets à ce qui précède, nous voyons qu'un homme impur fait un faux calcul, parce que le vrai bonheur, la vraie vie sexuelle épanouie, la vraie jouissance, elle peut être donnée dans l'institution du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Genèse chapitre 2. Verset 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quatre femmes, une aide. Je lui ferai une aide. Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme ne devrait avoir qu'une femme. Durant sa vie, pendant que la femme est en vie, du moins. Qui est-ce qui a introduit la polygamie? Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Non. C'est dans la descendance de Caïn, Lémec, qui a pris, lui, de sa propre volonté, deux femmes, Ada et Tsila. Vous avez ça dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Et c'est ainsi qu'a été introduite la polygamie. Vous me direz, oui, mais des hommes de Dieu, comme on a vu David et d'autres, ils ont eu plusieurs femmes, Jacob, les patriarches, oui. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? La pensée de Dieu, c'était de donner une femme. L'homme a trouvé bon d'en prendre plusieurs, mais ça n'enlève pas que la pensée de Dieu reste toujours la même. Et que tous les récits où vous voyez
des couples qui ont plusieurs femmes dans la Bible, ce sont des ménages où il y a des difficultés. Des ménages malheureux, où il n'y a pas vraiment le bonheur. Il y a jalousie entre les femmes, de sorte que la vie d'une famille où il y a plusieurs femmes, eh bien, c'est une vie qui n'est pas à l'honneur de Dieu et qui ne peut pas donner à l'homme le vrai bonheur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit ? On dit, mais les temps ont changé. Et l'on ne veut plus même entendre parler du mariage. D'une union qui serait faite devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que vous appelez ça au Québec ? On vit à côté. À côté de quoi ? On est à côté. Hein ? Voilà où on en est arrivé. On est à côté. Souvenez-vous que la femme légitime, c'est la femme unique. Et alors, c'est là que vous comprenez ce que veut dire le verset 15. Bois des eaux de ta citerne. Qu'est-ce que c'est sa citerne ? C'est sa femme légitime. Tu as une citerne qui t'appartient. Bois des eaux de ta citerne. C'est cette femme que Dieu t'a donnée, que tu as prise sous le regard de Dieu. C'est elle qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Les eaux qui sortent de ton puits. C'est un langage évidemment imagé, mais qui parle de ce rafraîchissement, de ce bonheur que l'on devrait pouvoir trouver dans la vie conjugale. Et alors là, dans second, et je suivrai ici, second, tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Là, pour comprendre ce verset, il faut le rapprocher de 1 Corinthiens chapitre 7. Si tu ne veux pas, dans le mariage, accomplir, au fond, ce qui t'est demandé de la vie sexuelle, de la vie conjugale, dans la vie conjugale, bien, on n'est pas simplement frère et sœur, ce n'est pas un mariage blanc. C'est, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Et si vous refusez à votre conjoint la relation sexuelle, eh bien, qu'est-ce qui arrivera ? La personne qui manque de cela, elle sera portée à aller ailleurs. C'est ça ? Elle ira chercher ailleurs que son mari ne lui donne pas. Et elle trouvera certainement quelqu'un pour remplacer son mari. Alors il y a donc une responsabilité. Parce qu'il ne faut pas toujours montrer du doigt l'adultère, parce que dans l'adultère, il y a peut-être aussi certaines raisons. Le mari qui n'a pas commis adultère, mais il n'a pas été pour sa femme ce qu'il devait être. Il ne lui a pas donné ce qu'il devait lui donner. C'est un ordre du Seigneur. Chapitre 7, la première épître aux Corinthiens. Pour ce qui est, y concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, ça peut créer toute espèce de problème. Selon l'Écriture, il y a trois raisons qui ont été données pour la vie sexuelle. Genèse, chapitre 1, c'est la procréation. Croissez et multipliez. Genèse chapitre 2, quand Adam reçoit Ève de la main de Dieu, eh bien, il est dit, cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et ils seront une seule chair. C'est l'expression d'une communion totale, deux êtres qui ne forment plus qu'un être. esprit, âme et corps. Ils se donnent mutuellement l'un à l'autre. Là, ce n'est pas en vue uniquement de la procréation. Il se peut que dans cette union, il y ait un fruit qui en découle et qui soit l'enfant. Mais il y a une troisième raison qui est donnée dans justement ce chapitre 7 des Corinthiens sur la question sexuelle. Eh bien, c'est la détente physique. La détente physique. Mais il faut être maître aussi de ses membres. Il faut que, par le Seigneur, nous acquérions la maîtrise de soi. Et le Seigneur, alors, nous bénira dans la vie conjugale. Mais tout doit se faire par amour. Mais vous voyez que là, dans ce verset 16, est condamné, justement, toutes ces relations que vous voyez aujourd'hui dans les places publiques, on se réunit, on fait l'échange de couples et tout ce que vous voulez. Bien, tout cela, c'est en abomination au Seigneur. Verset 17, parce qu'il est dit qu'il soit pour toi seul. Si tu es marié, ta femme, elle est pour toi seule. Tu n'as pas à la partager. Et si tu es marié, ton mari, il est pour la femme. Seul. Il y a une alliance et qui a été faite devant Dieu. Et justement, la femme infidèle, elle oublie cette alliance. Elle ne se souvient plus de l'ami de sa jeunesse, de celui qu'elle a maintenant épousé devant Dieu, et elle rompt l'alliance. Alors elle ne peut pas être bénie. Verset 18, que ta source soit bénie. Qu'est-ce que c'est, la source? Que ta source soit bénie. Sa source, c'est sa femme, hein? Mais qu'elle soit bénie, la bénédiction d'une femme, c'est quoi? C'est l'enfant. Que ta source soit bénie. Ça, l'enfant. Alors, l'avortement et tout ce que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour Dieu? C'est une abomination. Il n'y a bientôt plus que le pape qui dit ça. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Oui, tu peux faire ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Et sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Le Seigneur préside à cette vie sexuelle aussi, et il n'est pas un gêneur, loin de là, il peut nous aider dans la compréhension mutuelle, mais nous sommes sous le regard du Seigneur. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Vous savez, on peut être tenté. Dans la vie, il y a toutes les occasions possibles, surtout quand on voyage et quand on est seul. Elles sont multiples. Mais voilà un verset qui peut vous garder. Pourquoi embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Mais si vous avez lu cela quand vous étiez jeune, vous dites, mais c'est pas possible. On a pu avoir la tentation parce qu'on est des hommes. Mais on se conserve pour celle que Dieu nous a donnée ou celui que Dieu nous a donné. Voyez-vous, il nous faut revenir à ces principes. Parce que le monde va devant la ruine, le monde va à la catastrophe. Et pourquoi embrasserais-tu le sein d'une étrangère? C'est à quoi pensait Joseph? Pourtant, il n'avait pas de femme encore, mais il voulait rester pur. C'est autre, je ne sais pas ce qui se passe au Québec ou ce que pensent les Québécois. Mais en Europe, pendant longtemps, on pensait toujours que, oui, des jeunes gens, ils faisaient un peu les 100 coups. Mais le jour alors où ils décidaient de se marier, qu'est-ce qu'ils voulaient? Une fille vierge. C'est dégoûtant. Alors, ils exigent pour leurs femmes légitimes, quand ils se marieront, quelqu'un qui est vierge. puis eux, ils ont fait les 100 coups. Oh, c'est tout à fait normal, nous les hommes. Ben non. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas éduqués, dès notre jeunesse, à nous dire, un jour le Seigneur mettra devant toi la femme qui correspondra à toi. Eh bien, garde-toi pure pour elle, pour qu'elle n'ait pas seulement les restes de ta vie sexuelle. Voilà ce qui nous a été dit. Moi, je me souviens, c'était le camp de 1931, un des premiers camps qu'on faisait en Suisse. Et le prédicateur nous disait cela. Priez déjà maintenant pour que le Seigneur un jour mette sur votre chemin la femme qui correspondra et avec laquelle vous pourrez glorifier Dieu. Parce que si on se marie, ce n'est pas pour satisfaire ses passions. C'est pour glorifier Dieu dans la vie à deux. Mais dans la vie à deux, eh bien, il y a aussi la vie sexuelle. Et il doit y avoir correspondance. Et si c'est le Seigneur qui nous unit, eh bien, il y aura aussi correspondance. Et voyez-vous, pour moi, je pense que la chasteté avant le mariage est pour la femme, si elle peut penser que son fiancé est chaste, eh bien, c'est un gage déjà de sa fidélité dans le mariage. S'il peut rester chaste jusqu'au mariage. Elle sait que dans le mariage, il y a des périodes, il y a des temps aussi, où elle ne pourra pas se donner à son mari pour toute espèce de raison, il y a aussi la maladie, elle sait qu'il n'ira pas ailleurs. Mais du côté de la femme, eh bien, pour que le mari soit toujours épris de cet amour qu'il avait pour sa fiancée, maintenant qu'elle est devenue sa femme, il faut qu'elle travaille aussi à cela. J'ai souvent été désolée de voir que des jeunes filles qui savaient bien respecter les règles d'hygiène et tout, elles se faisaient belles pour leurs fiancés, pour les rencontres. Une fois qu'elles sont mariées, elles se laissent aller. Ou alors elles grossissent. Non mais pourquoi est-ce que on ne veillerait pas aussi à cela? On dit, oh mais c'est mon mari. Il n'a plus besoin d'avoir des vêtements qui lui fassent plaisir. Et pourquoi est-ce que vous ne feriez pas aussi un effort pour votre mari? Et alors, vous avez le verset 21 qui est capital, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Vous êtes toujours sous les yeux du Seigneur. Verset 22, le méchant est pris dans ses propres iniquités, est saisi par les liens de son péché. Ce n'est pas Dieu qui vous punit, c'est vous qui vous êtes préparé vous-même le châtiment. Il est saisi par les liens de son péché, il mourra, faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Et nous n'avons pas le droit de nous conduire comme des fous. Nous avons là la parole. Je demande à Dieu que vous puissiez relire ces textes. Si il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, que vous puissiez encore demander au Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu voulais me dire. Mise en garde contre la femme d'autrui, mais éloge d'un bonheur conjugal. Dieu veut des foyers heureux où la femme puisse être aussi satisfaite et le mari lui rester fidèle. Ayons des attentions l'un pour l'autre, ayons du tact et sachons renouveler notre amour. Mais vous me direz, oui, mais alors, nous qui ne sommes pas mariés, eh bien, remettez votre vie entre les mains du Seigneur. Mais, si lui le veut, il vous fera rencontrer l'homme de son cœur ou la femme de son cœur. Et puis s'il a une autre pensée, eh bien ne vous désolez pas, parce que de toute façon, celui qui se marie, il doit savoir qu'il aura des tribulations dans la chair. Ça vous pouvez en être sûr. Et que le mariage n'est pas nécessairement l'état idéal. Alors ne vous desséchez pas. Voyez ce que vous pouvez être, peut-être des mères spirituelles, ou des pères spirituels. La question, c'est d'avoir affaire avec le Seigneur. Et aller à lui, très simplement, et dites-lui, Seigneur, voilà, je ne peux plus, ou je fais quelque chose. Et vous verrez qu'il saura le faire. Si vous pouvez lui dire, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen. Alors, quel titre donneriez-vous à ce chapitre? Où pouvez-vous voir un portrait de Jésus dans ce chapitre? Réfléchissez, et on en parlera demain. Revenez sur ce chapitre. Dieu notre Père, nous voudrions vraiment que ce soit toi qui nous parle. Nous nous rendons compte que ta parole peut nous paraître étrange dans un monde qui vit d'une façon absolument contraire à ce que tu as voulu. Mais nous savons où va ce monde. Vers la ruine, vers la perdition. Et nous voyons aussi tant de couples malheureux, tant de gens qui ne croient plus au bonheur conjugal et qui ne veulent pas contracter une union devant toi, qui est pourtant la seule que tu peux vraiment bénir, sanctionner. Donne-nous de ne pas suivre les principes du monde, le courant de ce siècle, mais de croire que le bonheur, il est encore en toi, dans ce que toi tu as institué, dans ce que toi tu as prévu, dans ce que le Seigneur a béni. Nous te le demandons et nous te prions de répondre aux besoins de tous les cœurs de nos frères, de nos sœurs qui sont ici. Tu les connais et tu veux les bénir. Et pour les plus jeunes, nous te demandons qu'ils puissent recevoir tes enseignements et en vivre pour ta seule gloire. Afin qu'un jour, si tu n'es parvenu et que nous devions passer par la mort, nous ne mourions pas dans le remords et dans le regret, mais que nous mourions dans la joie et dans la consécration. Une mort qui glorifie notre Seigneur, comme notre vie devrait te glorifier, que notre mort aussi serve à ta gloire. Exauce. Prépare notre journée de demain et cette étude du chapitre 6 et tout ce qui viendra ensuite. Renouvelle-nous dans notre compréhension et dans notre amour de ta parole. En Jésus.